de pierres et de notes, votre rendez-vous musical, orchestré par Blandine Piccinini.
Bonjour, bienvenue dans l'émission de Pierre et de Notes. Pour une seconde émission, je suis en compagnie de Roland Kern.
Bonjour.
Bonjour Roland. Vous êtes violiste, donc vous jouez de la viole de gambe et vous avez composé pendant la période du coronavirus et notamment ce contexte d'enfermement dans lequel on était. Et vous avez enregistré cet album après coup, mais vous avez composé. Cet album porte la marque de vos pensées durant cette période et de souffrance et de lutte. Nous entendons effectivement différentes interprétations de cette façon de sentiment, de sensation que vous avez eue. Nous avons découvert la viole avec vous de manière douce, puis un peu plus énergétique. Pourquoi avoir choisi justement les châteaux de la Loire pour enregistrer ce disque? Est-ce le lieu qui vous a inspiré ou c'est une autre façon de voir la viole de gambe en fait? Pouvez-vous nous expliquer comment nous ressentons cette énergie à travers la viole de gambe?
Oui, tout à fait. Alors, comment a commencé cette aventure? Je ferai le lien avec ce que je disais à la précédente émission sur la rareté de cet instrument. Dans la mesure où j'avais beaucoup de mal à trouver de concerts, et c'est ce qui m'a, dans le sud-ouest en fait, hein, pour être honnête, et c'est ce qui m'a amené à me poser la question, mais où est-ce que je pourrais bien jouer de la viole de gambe? Où est-ce qu'on va m'écouter? Et j'avais fait un album au couvent des Jacobins de Toulouse, j'avais fait des compositions dans les Pyrénées, mais je ne trouvais pas de date. Et je me suis dit, mais pourquoi pas les châteaux de la Loire? Donc je suis parti un jour en voiture. J'avais fait un concert il y a quelques années chez une personne qui s'appelle Martine, qui m'avait accueilli à Saint-Dié-sur-Loire, et qui m'avait dit, écoute, tu reviens quand tu veux, si tu as besoin d'un hébergement, tu es le bienvenu. Et donc je l'ai contactée et elle m'a hébergé. Et une petite semaine pendant laquelle je suis allé dans les châteaux de la Loire qui étaient autour et j'ai un peu toqué aux portes en demandant qui voulait, est-ce que ça intéresserait quelqu'un que je fasse un album sur les châteaux de la Loire. Et là, à ma grande surprise, il y a 8 châteaux qui m'ont ouvert leurs portes très très rapidement et donc je me suis dit, mais c'est extraordinaire, et dont celui de Chambord en me disant, et on vous propose même d'enregistrer et d'être en résidence artiste. Et voilà, donc là c'était très... très très surprenant, et ça c'était en 2020, donc janvier 2020, en sachant qu'on a été confiné le 8 mars 2020, et donc j'ai commencé cette résidence à ce moment-là en fait, et donc elle s'est aussi arrêtée très vite puisque on devait être confiné, donc j'ai fait qu'une semaine dans ce temps-là à Chambord, mais avant ça, entre janvier et j'avais quand même commencé à aller dans les autres châteaux et à composer. Après le mois de mars, il y a eu un temps où j'ai repris ces compositions que j'avais commencées dans chaque château et je les ai retravaillées, donc à domicile, confiné. Alors malgré le confinement, parce que je parle du couvre-feu parce que ça a été une deuxième étape. Chambord m'a proposé donc de venir faire une grande résidence. Donc ça s'est échelonné au total sur plus d'un an, avec des périodes d'une semaine ou de 15 jours de temps en temps. Et j'avais la chance donc d'habiter in situ dans le château, dans un appartement qui est consacré aux artistes ou aux personnalités qui viennent là, et de pouvoir donc librement jouer, composer. Et en échange, j'allais aussi dans un hôpital psychiatrique, une clinique psychiatrique. Là, ça a été un moment très riche aussi. Et je faisais donc un travail d'écriture avec les patients, à la fois en les accompagnant à la viole de gambe et à la fois en les accompagnant sur ce travail d'écriture qui a finalement débouché sur une pièce de théâtre, même deux pièces de théâtre qu'on a joué dans Chambord, et un travail aussi autour de l'escalier de la double révolution de Chambord, puisque c'est un lieu qui me parle beaucoup par rapport au noyau central, au vide qu'il habite, enfin plein de choses, voilà. Et du coup et ça parlait aussi à ces gens donc, qui sont beaucoup dans l'errance et qui sont... Et donc on est allé vers ça. Alors pour revenir sur la souffrance et la lutte, moi je me suis retrouvé à des moments où j'étais seul dans le château de Chambord, c'était pendant le confinement, et c'était très étrange puisque c'est un lieu habituellement qui a 2 millions de visiteurs, et moi je n'ai connu Chambord que dans la solitude en fait, avec quelques gendarmes qui surveillaient le lieu, quelques chevaux, mais sinon la plupart du temps j'étais seul. Et c'était très surprenant de me retrouver là, en pleine situation donc de crise sanitaire, de voir tout ce qui... Évidemment, je suivais l'actualité, j'ai perdu aussi un proche, José Vasquez, qui est un grand gambiste et à qui je cherche... Enfin, à qui je veux rendre hommage aussi, puisqu'il m'a beaucoup apporté, lui, dans mes avancées à la viole de gambe, puisqu'il avait une collection de viols de gambe et qui prêtait ça gratuitement, donc des viols historiques des années 1600. Et donc on avait la chance de les jouer, et puis il m'a pris aussi sous son aile et pendant plusieurs fois en voyage, il m'a transmis de manière amicale la viole de gambe, des secrets, ses techniques que lui décortiquait dans des anciens ouvrages en me disant, voilà, au conservatoire on enseigne comme ça, mais en fait c'est comme ça. Il y a eu plein de choses qui ont été intéressantes. Je pense que dans cet album, il y a malgré tout quelque chose de ça aussi, qui relève de la sublimation, c'est-à-dire de... Alors, on dirait peut-être de la résilience, avec ce terme de Boris Cyrulnik qui est passé un peu dans les pensées communes, dans l'inconscient collectif. Pour moi, donc... Enfin, je reviens aussi sur la situation des artistes, c'est qu'on a eu une chance, c'est que la France a soutenu les intermittents du spectacle pendant cette période. C'est-à-dire qu'on n'avait plus ce devoir de faire des concerts pour être rémunéré. Et on a pu donc se centrer sur autre chose que sur la recherche de dates. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je me suis dit, moi, c'est pas le coronavirus qui va m'arrêter dans mon élan créateur. Je veux au contraire faire des albums. Donc j'en ai fait deux. J'en ai fait un autre sur les Pyrénées, que j'ai appelé les Pyrénées. Et du coup, ça m'a donné la possibilité de me centrer sur ce que devrait être mon métier, hein, c'est-à-dire pas passer du temps à chercher des dates et des concerts, mais créer de la musique, composer. C'est ce que j'ai fait à ma manière.
Donc, nous vous écoutons dans le château de Chambord, donc cette interprétation par vous, puisqu'il signe des compositions musicales. Œuvres qui sont inspirées de l'écriture musicale classique. La sonorité est parfois un peu différente. Nous venons d'écouter une interprétation de vos œuvres, hein, de vos compositions ici dans ce contexte du coronavirus. Et donc, vous avez une manière justement d'approcher la viole de gambe qui est à chaque fois différente. Justement, vous aviez expliqué dans l'émission précédente que vous essayez de voir un petit peu la viole de gambe un peu de nos jours. Et donc, du coup, on le sent vraiment vraiment bien. Vous présentez des dissonances, des répétitions. Est-ce que cela, vous voulez faire basculer certaines pratiques de la viole de gambe, ça se sent bien. Votre jeu est intense, à la fois doux. Et comment vous arrivez à réaliser cela? Parce que vous avez envie de mélanger certains styles, peut-être comme vous nous aviez expliqué tout à l'heure dans l'émission précédente. Vous voulez à la fois mélanger un peu ce style de guitare, un peu peut-être électrique, avec votre jeu classique de viol de gambe. On sent quelque chose, en tout cas.
Tout à fait, oui, il y a de ça, effectivement, oui. Déjà, merci beaucoup pour ces remarques et pour permettre aux auditeurs d'écouter aussi donc, le château de Chambord. Alors, dans la viole de gambe, je cherche à explorer plein de choses, comme je l'ai un petit peu expliqué. Et pour moi, cet instrument, c'est un instrument qui est très fragile et très fort à la fois. Et je trouve que ça rejoint ce qu'est l'humanité et voilà, des défauts, des faiblesses. À la fois dans le son, à la fois dans la fabrication, à la fois dans l'accord, puisque la viole de gambe, c'est un instrument qui se désaccorde très vite. C'est un instrument qui a des cordes en boyau qui sont fragiles, où il y a des petits bruits qu'on ne trouve pas sur des cordes en métal. On dit parfois que c'est un instrument susceptible, qui est caractériel, qui un jour elle marche, un jour ça sonne très bien, puis un jour ça sonne pas du tout. Et donc quand on est violiste, c'est terrible d'en passer par des moments comme ça où on va se dire mais qu'est-ce que c'est que cet instrument? Pourquoi je vous donne un instrument comme ça alors qu'aujourd'hui je reviens peut-être à la guitare électrique où là il y a un son qui est super propre avec des effets, tout est facile même à enregistrer. Moi pour faire mon il y a des albums où j'ai passé 10 ans en fait à chercher le son et je l'ai pas trouvé, donc j'ai pas fait les albums jusqu'à là parce que je trouvais pas le son que je voulais, c'était impossible à enregistrer. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là que j'intègre à la musique maintenant et qui sont pour moi devenues un charme. Et je ferai un lien avec la psychanalyse parce que j'ai fait une longue psychanalyse. La psychanalyse, c'est quelque chose dans laquelle on va puiser dans les faiblesses pour en faire des forces. Mais j'allais dire, comme c'est difficile de faire ailleurs autrement. Et la musique, je trouve qu'il y a ça aussi. On va puiser dans un son, j'allais dire pourri, un son joli. Parce que je me souviens des premiers sons que j'ai eus à la viole de gambe dans des églises, où pour moi c'était vraiment magique, où là j'entendais des voix résonner, des choses assez fabuleuses. Alors que parfois, voilà, la viole de gambe c'est complètement ingrat. Et il y a plein de gens qui s'arrêtent à ce côté-là. Et voilà. Bon.
Donc vous domptez ce caractère de la viole de gambe dans le château de Langeais. Donc.
Alors je sais pas. Alors dompter, ça me parle beaucoup ce mot, parce qu'en plus c'est le terme qu'utilisait Sylvie Moquet, mon enseignante, qui me disait un instrument, il faut le dompter. Mais je dirais, alors si je fais le lien avec l'animal sauvage qu'on va dompter, un lion, moi je dirais je le laisse presque à l'état sauvage, mais je vais essayer de me faire accepter par lui. Donc c'est pas vraiment la dompter, mais c'est l'accompagner dans ce qu'elle a d'horrible à dire, parfois, et en fait en faire quelque chose de beau. Et c'est pour ça que quand vous dites c'est à la fois il y a doux et il y a aussi de l'énergie, c'est en essayant d'en épuiser dans ces deux registres, qui ne sont pas simplement les nuances, pianissimo ou fortissimo, toutes les nuances, mais d'aller puiser vraiment dans le son, dans l'accroche parfois. Je me souviens d'un musicien qui me disait « Ah, c'est beau parce que ça racle !» comme si « des sons comme ça. Ou alors, mais si on le prend à contre-coup, il y a des bruits parasites. Ces bruits parasites, je les intègre. Donc tout ça, dans l'enregistrement, parce que pour moi, l'enregistrement, c'est aussi une œuvre, c'est maintenant une démarche artistique dans laquelle je suis impliqué. De la même manière que c'était le cas en studio dans les années 70, quand on a commencé, je m'écarte un petit peu du sujet, mais c'est une recherche et une quête sonore d'enregistrer la musique.
Donc, vous domptez cet instrument à tel point que vous êtes l'ambassadeur de cet instrument avec des sons magiques.
Je ne sais pas si on peut dire ambassadeur, mais...
si, quand même. Et on sent justement à travers ce jeu-là, vous aimez bien faire résonner les graves des jeux qui sont un jeu intense.
Oui, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup dans la musique écrite.
Et donc on le sent, donc effectivement dans la composition musicale que vous avez choisie pour le château de Rivaux, vous vous exprimez différemment. Et il y a le jeu qui transparaît dans l'expression ici. Pourquoi vous avez voulu cela? Pourquoi dompter le grave? Et qu'est-ce que vous recherchez dans ça?
Alors très bonne question. Et si je vous réponds très spontanément et très honnêtement, parfois ça serait de dire je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mystères dans ma création, dans ce que je fais. Néanmoins, je peux quand même conscientiser certaines choses. Et pour le château de Rivaux, il y a un côté, ce château est un château très ancien, typé médiéval, mais avec des décorations et contemporaines, et j'allais dire du kitsch bien fait. Il y a des monstres aussi, il y a dans des assiettes, j'ai souvenir des choses comme ça. Il y a aussi un parc qui est consacré aux enfants, qui est très, et puis à la place de Gargantua avec des sculptures immenses aussi, hein, qui sont faites avec des arbres et vraiment très très grands. Donc c'est très varié, très riche, et voilà, je pense que ça m'a inspiré. Et quand je compose, je fais pas une illustration du lieu où j'entre en résonance avec le lieu. Tout à l'heure, vous me demandiez aussi quel rapport avec le lieu, même pour Chambord. Il y a des rapports avec le lieu, avec la pierre, avec la déambulation, avec l'escalier, avec le fait de se perdre, et puis de revenir sur cet escalier central comme une fondation. Pour Rivaux, il y a ce côté-là aussi, mais il y a aussi les jardins, la décoration, donc tout ce qui est un peu contemporain, tout ce qui est dissonant, je l'ai puisé plutôt dans ce que c'est aujourd'hui. Et le côté ancien, c'est plutôt dans les murs, dans les odeurs, dans les parfums aussi, parce qu'il y a aussi il y a plein de rosiers, et puis une partie de la composition, je l'ai fait en dehors du château, puisque c'était un rendez-vous raté, j'allais dire, mais qui a bien porté ses fruits. J'ai pas pu rentrer, c'était pendant le confinement, la personne n'était pas là, au départ elle devait pouvoir m'accueillir, puis ça s'est pas fait, donc en fait je l'ai fait à l'extérieur du château, avec aussi quelque chose de magique, avec du recul, avec une prise de distance à la fois sur le lieu et sur ce qu'on vivait, sur tout ça, donc il y a ça aussi qui transparaît.
Ouais. Merci Roland.
Merci beaucoup à vous.
Nous allons donc écouter cette œuvre musicale que vous avez aussi mise en scène dans ce château de Rivaux. À bientôt dans l'émission de Pierre et de Notes.
À bientôt, au revoir.
De pierres et de notes, votre rendez-vous musical, orchestré par Blandine Piccinini.